16h52 minutes dans les retours à week-end. C'est jeudi aujourd'hui, 26 février. Merci beaucoup d'être avec nous. Notre ami Alexandre Leblond est en studio, planificateur financier. Salut Alex, bienvenue.
Salut vous autres.
Yes. Je suis content parce que j'ai écouté une de tes chroniques et je me suis dit, waouh, ça conforte tellement. Ben, pas ça conforte. C'était une impression que j'avais et l'Institut de la statistique du Québec arrive avec des chiffres intéressants sur la situation financière des 35 ans et moins.
Ouais.
Puis on voit des anecdotes des fois dans les médias, des exemples d'une personne pour qui, ben mettons un jeune dans ce cas-ci, « Hey, cette personne-là, ça va mal. Elle a 8 cartes de crédit, sont toutes pleines. » Et on a comme le réflexe de faire une généralisation avec ça. Puis ah ben là, ça veut dire que tous les jeunes, ils ont vraiment de la misère financièrement.
C'est parce que les jeunes, en général, vont gagner aussi moins parce qu'ils sont aux études ou en début de carrière. Fait que le taux horaire peut être un peu moins, mais les coûts continuent de grimper avec l'inflation. Fait que ça peut devenir un peu étouffant aussi.
Mais donc, est-ce que c'est vrai que la situation financière des jeunes est plus difficile qu'avant?
Bien, l'Institut de la statistique du Québec ont sorti des chiffres. Puis eux autres, ils ont 99, ils ont 2000, ils ont 2006.
Ils ont depuis longtemps, les jeunes.
Ont,
là.
Ouais, ouais, les ouais. 35 ans et moins sont capables de les traquer dans le temps. Puis la conclusion, c'est que, regarde l'actif net, OK? Combien valent les jeunes de moins de 35 ans en moyenne? Puis ils mettent ça tout sur la même base, là, parce que tu ne peux pas prendre des montants de 99 et les comparer avec des montants de 2026. Mm-hmm. Pas en même base de comparaison, mm-hmm. Ça fait pas de sens. Ils ramènent tout ça en argent de 2023. Puis la conclusion à laquelle ils en sont venus, c'est que la valeur nette moyenne, là, ce que en moyenne ça valait, là, une maison de gens de 35 ans et moins, là, ce qui valait, c'était 80 207 $ en 2005. Puis maintenant, c'est 215 000. Fait que la valeur, la richesse des jeunes, en réalité, a triplé depuis 2005.
Ça s'explique comment?
Un ensemble de facteurs. Premièrement, il y a de plus en plus de jeunes qui sont propriétaires. Okay? Quand tu regardes en 2005, pour les 35 ans et moins, je rappelle, il y avait grosso modo 25 % des jeunes qui étaient propriétaires de leur résidence. Fait qu'un sur quatre. Maintenant, cette proportion-là, malgré tout ce qu'on a vu dans les médias,
oui,
est à 44 %.
Et pourtant, on n'arrête pas de parler que oui, c'est difficile pour les premiers acheteurs.
La conclusion ici, c'est pas que c'est facile. C'est qu'ils s'en tirent mieux que ce qu'on entend dans l'univers public.
Ah oui.
Puis là, maintenant, par rapport à la propriété, ça, c'est intéressant. Parce que là, tu regardes, OK, oui, ils ont accès à... Visiblement, ils sont plus propriétaires qu'ils l'étaient
ouais,
avant. Tu sais, 25 % versus 44 % maintenant. Pourquoi ça? Oui, les revenus sont mieux qu'ils étaient avant, mais il y a une grosse partie de l'équation qui n'est pas abordée là-dedans, qui est l'aide des parents. De plus en plus, il y a de l'aide des parents pour l'achat des premières propriétés au Québec et au Canada. On est rendu à, grosso modo, un achat sur trois qui se fait avec une petite passe à palette de papa-maman.
Mais le taux, si on prend, mettons, la société, comment ça marche présentement, là, il y a les baby-boomers, il y en a beaucoup qui sont rendus à la retraite, donc ils ont la possibilité. Ben oui, ils sont assis sur leurs dollars bien économisés au fil de la vie, fait qu'ils sont capables, ils sont dans une partie, les baby-boomers sont à une partie de leur vie où ils peuvent redonner à leurs jeunes parce qu'ils n'en ont plus autant de besoins pour eux. Mm-hmm. Fait que ça c'est sûr que ça
quelque chose qu'on voyait pas avant.
Ben oui.
On est présentement, on commence, là, ça va s'accentuer dans le futur, mais dans le plus gros transfert de richesses intergénérationnelles de l'histoire de la planète sur laquelle on vit. Là. Ça s'est jamais passé. Quand tu regardes, tu ramènes toujours justement sur une base de comparaison en dollars d'aujourd'hui. Là, jamais on a eu un transfert de richesses comme celui qu'on vit présentement. Puis tu vois, le don moyen au Canada, c'est 115 000. Là,
c'est beaucoup?
Pour une première maison.
Aïe, aïe, OK. Puis on a l'impression que, encore là, est-ce que c'est une impression où l'Institut de la statistique l'a calculé, les jeunes, est-ce que dans cet âge-là, ont pas... surveillent pas bien leurs finances, tu sais, ou encore c'est un âge à laquelle on
pense pas à l'avenir.
Non, on vérifie pas ces affaires-là, on met pas de REER, mettons, on met pas de CELI, on les remplit pas à cet âge-là. Est-ce que c'est mieux ou c'est pire qu'avant?
Ben, une des conclusions à laquelle on en vient, là, c'est que il y a un écart qui se creuse entre ceux qui ont une bonne situation financière puis ceux qui l'ont plus difficile. T'sais, souvent en économie, là, à ces temps-ci, on parle de l'économie en K. Là. Pensez à la lettre K. Il y a une patte qui s'en va d'un bord puis l'autre qui s'en va complètement de l'autre bord. Ce qu'on voit présentement, c'est, mettons, OK, il y a de plus en plus de jeunes qui ont de l'argent dans un REER, dans un CELI. Quand on regarde la dette, il y a moins de jeunes qui ont des prêts étudiants. Il y a moins de jeunes qui ont des prêts auto. Par contre, ceux qui en ont, ils en ont beaucoup plus qu'avant.
Okay.
Beaucoup, beaucoup plus qu'avant.
Les deux extrêmes.
Quand on regarde les dettes de consommation, mettons entre 99 puis aujourd'hui, la consommation, on pense à marge de crédit, carte de crédit, auto, etc., bien, il y en a moins qui en ont. Mais ceux qui en ont, leur dette est 47 % plus grosse. Fait que l'espèce de fossé entre les plus riches et les plus pauvres dont on parle dans la société au sens large, on est vraiment capable de l'accentuer chez les jeunes. On le voit beaucoup. Puis ça, c'est, OK, as-tu un régime épargne-études quand tu es à l'université au cégep?
Ouais.
Ou ça, ça te donne un gros, ça donne une longueur d'avance significative versus la personne qui finit avec 26 000 de dette étudiante. Ouais. Ta maison, tu l'as-tu payé tout seul ou tu as eu le petit 115 000 en moyenne de dons de papa-maman? Ça ne veut pas dire que ceux qui ont ça, ils l'ont nécessairement facile
non.
à 100 %, mais l'espèce de fossé qui se creuse entre ceux qui l'ont facile puis ceux qui l'ont moins facile, on le voit vraiment chez les jeunes.
Puis ce changement-là de paradigme, t'sais, est-ce que ça vient aussi de la parentalité qui a changé, de la façon d'être parent? Parce que t'sais, on parlait des baby boomers tantôt. Les parents, à cette époque-là, faisaient leur salaire, puis après ça, un moment donné, l'enfant va quitter la maison puis vole de tes propres ailes, tu t'arranges, versus cette génération-là qui a peut-être tendance à dire à quel point c'est difficile, sachant que papa-maman va être en arrière pour les baquer, ce que la génération avant n'a pas vécu, n'avait pas l'opportunité de vivre non plus. Est-ce que les parents en font trop pour leurs enfants? Est-ce qu'on les met trop dans Watt peut-être, puis ça fait en sorte qu'on a des enfants qui, quand vont dans le mauvais côté du cas, vont justement plus loin qu'avant?
Bien, moi, ce que je vois, là, je le vois avec des clients, mettons, qui sont dans cinquantaine, que leurs enfants sont justement là, 25-30, puis comment ça? Les parents sont comme terrifiés à l'idée que leurs enfants vont l'avoir plus tough qu'eux autres, puis ils ne seront pas capables de s'acheter une maison. Fait que déjà, eux autres, là, avant même que l'enfant fasse une demande de quelque manière que ce soit, sont en mode « Hey, comment je fais pour les aider?
Okay. »
Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on lit dans les médias? Qu'est-ce qu'on entend dans la sphère publique?
Mm-hmm.
Est-ce que les jeunes l'ont vraiment, 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 vraiment plus difficile qu'avant? Alors que les chiffres nous démontrent exactement le contraire.
Mm-hmm.
Fait qu'il y a comme une dichotomie présentement entre ce que les chiffres officiels nous disent puis ce que les gens prétendent vivre.
Est-ce que les réseaux sociaux, on en a parlé tout à l'heure en plus, c'était intéressant parce qu'on parlait que des fois, ça crée des chambres d'écho. Est-ce que peut-être qu'il y a ça? Un cas va devenir, mettons, plus médiatisé, donc on va avoir plus l'impression que justement ces jeunes-là, on en arrache carrément.
Absolument.
Fait que c'est, ça, on devient un peu biaisé de par les réseaux sociaux.
Oui, puis il y a un paquet d'affaires qu'on lit sur les réseaux qui sont juste pas vraies.
Mm.
Tu sais, on parle souvent du fameux exemple, le boomer qui a acheté sa maison en 78 à 32$, puis là, qui a vendu à 20 millions. Là.
Mm.
Cette espèce d'image-là qui est peinturée comme de quoi les boomers l'ont eu facile, les X l'ont eu facile, puis les jeunes se ramassent avec toute la marde. La conclusion, tu sais, c'est important.
Ouais,
tu peux pas prendre, hey, la maison coûtait 37 000, puis dire, ah, ben, à cette heure, c'est 500, c'est plus cher.
C'est sûr, dans ton temps, les maisons coûtaient 37 000, cette expression-là qu'on entend.
Ben oui, mais tu sais, les taux d'intérêt étaient à 18-20
%.
Exact.
Les salaires étaient infiniment plus petits qu'aujourd'hui. Fait que moi, par rapport à l'espèce de combat entre les générations, là, moi, j'essaie toujours de ramener le fait que c'était extrêmement difficile pour les boomers de s'acheter une maison avec les conditions qu'il y avait à cette époque-là. C'était extrêmement difficile pour les X et c'est extrêmement difficile pour les jeunes
encore
aujourd'hui. Ça a toujours été tough.
Ouais.
Il y en a qui l'ont plus facile, il y en a qui l'ont plus tough, mais quand on regarde les statistiques globales, là, canadiennes ou québécoises, c'est pas vrai là, qu'il y a une génération qui a eu un free pass qui s'est enrichi sur le dos de tout le monde. Tout le monde l'a eu tough à différents égards.
De manière différente.
Différente.
C'est ça. La réalité change tellement que le point de comparaison est difficile.
Mm. Ben oui.
C'est tellement intéressant.
Vraiment.
Et une raison de plus d'avoir un bon planificateur financier parce que si ça va bien, vos affaires, vous êtes dans le bon côté du cas. C'est peut-être parce que vous avez un bon planificateur financier. Mais
REER, là.
Pour les autres.
Ouais, jusqu'à lundi.
C'est ça.
C'est
mais
vrai.
Là, si tu m'écris là... Il est
tard. Là, il est tard.
Techniquement, il faut que je fasse la transaction.
Ouais.
Je vais en faire. Là.
Ah.
Mais le courriel est parti le 5 janvier. Là.
Oui, c'est ça. OK, parfait. N'oubliez pas ça. Là.
C'était quand même un rappel parce que, mettons, si tu l'as, ton planificateur financier,
c'est
tu peux peut-être agir.
Contacte-le pas là.
Mais ça.
Ding, ding, ding.
Mais c'est jusqu'à lundi, directement.
Mais c'est correct.
Sauf que.
On va la faire.
On va le prendre.
Mais le courriel est parti le 5 janvier. Le rappel.
J'ai envoyé le rappel pour ça avant.
Pas les dossiers les plus fun à traiter. Ouais. Hein?
Je le confirme, je l'ai eu, ce courriel-là, moi, le 5 janvier.
Attends,
moi,
je confirme. T'as répondu vite, je pense.
C'est vrai? Je préférerais que je te parle, hors d'onde.
Alexandre Leblon, planificateur financier, leblonpf.com, donc pour tous les détails. Merci beaucoup, Alex.
Merci, Gab.
À la prochaine.
Ce segment d'émission